6h. Très bon réveil.
On a été vengés, on a honoré la mémoire de notre fille et on remercie cette justice française de nous avoir donné ce qu'on attendait.
La reconnaissance et le soulagement de cette mère après la condamnation du meurtrier de sa fille, peine de prison à perpétuité. Son témoignage en exclusivité sur Europe 1 ce matin. Dans ce journal, la course au vaccin à ARN messager des laboratoires. L'explosion des signalements de cas d'inceste et de violences sexuelles. Il y en a deux fois plus depuis le début de l'année selon les informations d'Europe 1. Et puis la frustration des Londoniens à la veille des obsèques du prince Philippe. À cause de la situation sanitaire, impossible de se rassembler pour lui rendre hommage.
Les sports. Et puis mon invité inattendu sera un chef gastronomique, un chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Mais avec lui ce matin, on va cuisiner une madeleine de Proust de notre enfance, la vache qui rit, qui fête ses 100 ans. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence avec ce témoignage exclusif, celui d'une mère qui réclame justice depuis 4 ans. Un soir d'août 2014, un homme fonce avec sa voiture sur la terrasse d'une pizzeria en Seine-et-Marne. Angela, une adolescente de 13 ans, meurt sur le coup. Il y a une dizaine de blessés. Après 3 semaines de procès, le chauffard a été condamné hier à la peine maximale, perpétuité dont 22 ans de sûreté. La mère d'Angela, Betty, a accepté de réagir au micro de Justin Morin.
Ils ont vengé notre fille. La seule vraie vengeance pour nous, c'est la justice et qu'elle montre l'exemple. Et on a été vengés, on a honoré la mémoire de notre fille et on remercie cette justice française de nous avoir donné ce qu'on attendait. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait. Chaque jour, c'était énormément difficile. On s'est imprégné de la douleur des uns et des autres. Le soir, on rentrait, on était complètement vidés, on était... Ces jours de procès, on était vraiment dans un autre monde.
Il va vous aider, ce verdict ?
Bien entendu. On avait une épée Damoclès au-dessus de la tête durant toutes ces années, en plus de notre souffrance, en plus de toutes nos pathologies, en plus de... On n'a jamais quitté les centres hospitaliers, les rendez-vous médicaux. On ne pourra jamais tourner la page, mais on va peut-être aider nos enfants à avancer. Et c'est eux notre moteur.
Est-ce que vous avez quelque chose de plus à dire ?
Juste merci. Merci pour cet exemple et merci pour cette... victoire. Je suis tellement, tellement heureuse, en fait. Merci à la justice.
Le témoignage de cette mère en exclusivité ce matin sur Europe 1.
Près de 12 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid et un peu plus de 4 millions ont reçu les deux.
Et si les vaccins AstraZeneca et Janssen sont sous le feu des critiques ces dernières semaines, les vaccins à ARN messager, eux, sont en odeur de sainteté. Pour rappel, ils consistent à injecter une molécule avec un code génétique qui va permettre à notre organisme de se défendre face au virus. Après les succès de Pfizer et Moderna, de plus en plus de groupes pharmaceutiques se ruent vers cette technologie, Victor Delande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins à ARN messager, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination à ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante et surtout plus de labos pour développer des vaccins à ARN messager. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles pour le monde entier dans les années à venir.
Et à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de 60 ans peuvent se faire vacciner avec Pfizer et Moderna sans condition. À noter que les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer auront sans doute besoin d'une troisième dose d'ici 6 mois à 1 an, puis d'une injection chaque année, selon le PDG de Pfizer.
Depuis le début de l'année, depuis 4 mois, donc les signalements de cas d'inceste et de violences sexuelles sur mineurs explosent. Plus 45% selon les informations d'Europe 1.
Deux fois plus de signalements ont été reçus sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr par rapport à la même période l'année dernière. Une augmentation notamment due à la libération de la parole après les nombreuses affaires médiatiques, Gladys Laffitte.
Exactement, et 850 de ces messages reçus concernent des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et la libération de la parole concerne surtout les faits d'inceste. Et ça, c'est nouveau, explique la commandante Sandrine Masson, chef de la plateforme pour la police.
L'année dernière, sur la même période, on avait 25 chats qui concernaient des viols et des agressions sexuelles incestueux. Cette année, sur la même période, 169 faits. Suite au hashtag MeTooInceste, les gens avaient véritablement besoin d'en parler et qu'ils ne se sentaient pas le courage auparavant d'en parler.
Cette démarche est aussi favorisée par l'anonymat qui est proposé lors des échanges. Il est choisi dans 69% des cas, des échanges qui durent en moyenne 54 minutes. Et à l'issue, les forces de l'ordre proposent leur aide aux victimes, par exemple, si elles souhaitent déposer plainte. La hausse des signalements concerne aussi les faits de violence conjugale. Il est courant qu'un voisin contacte la police via ce portail internet parce qu'il est témoin direct de violences intrafamiliales. Et ça, c'est de plus en plus fréquent avec les confinements successifs.
Et à noter que le Parlement a adopté hier soir la loi protégeant davantage les mineurs contre les violences sexuelles, en fixant notamment le seuil de consentement à 15 ans, 18 ans en cas d'inceste. On va reparler de ce sujet à 6h40 tout à l'heure avec mon invité Édouard Durand qui co-préside la commission qui a été lancée sur ces sujets, la commission lancée au mois de mars.
Dans l'actualité aussi, Paris recommande aux Français de quitter le Pakistan. De violentes manifestations anti-français ont repris dans le pays depuis le début de la semaine à l'appel d'un parti islamiste radical. Cela fait suite à l'arrestation du leader du groupe lundi. Il avait appelé à l'expulsion de l'ambassadeur de France et à la rupture des relations diplomatiques avec Paris.
Il est 6h07 sur Europe 1. Le Royaume-Uni se prépare aux funérailles du prince Philippe. Elles auront lieu demain après-midi à Windsor.
Et en raison du contexte sanitaire, seules 30 personnes pourront assister à la cérémonie. Cérémonie que les Britanniques sont invités à suivre à la télévision, chez eux, pour éviter tout rassemblement. Une absence d'hommage qui peine de nombreux londoniens. Anaïs Cordoba.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie. Ça me rend très triste.
Christie, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
L'ONU débloque son fonds d'urgence $1 million pour venir en aide à l'archipel de Saint-Vincent, touché depuis une semaine par l'éruption de la Soufrière. Environ 20 000 personnes ont été évacuées des abords du volcan. Kobe Bryant, la légende de la NBA, décédée l'année dernière dans un accident d'hélicoptère, va faire son entrée au Hall of Fame, le panthéon de la gloire du basket américain et mondial. Ce sera le 15 mai prochain et c'est un certain Michael Jordan qui prononcera son discours d'intronisation.
Et puis, il y a un an, tout juste, Christophe décédé à l'âge de 74 ans, en porté par le Covid.
Mais son héritage perdure et de nombreux artistes s'inspirent de sa musique et le réinterprètent. Angèle Châtelier.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi.
J'ai longtemps cherché.
Et pour Hervé, révélation masculine aux victoires de la musique cette année, Christophe était un précurseur, un technicien de la musique qui a toujours su capter l'air du temps.
Moi j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. C'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps. Les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble. Il sera toujours noble.
Je vois tout, j'entends tout.
Alors aujourd'hui, de nombreux artistes se réapproprient ses plus grands tubes, comme le groupe d'électropop parisien Thérapie Taxi avec Aline.
Et j'ai crié Aline.
Ou encore Johan Papa Constantino, 29 ans, qui cumule des millions d'écoutes sur sa reprise des mots bleus, légèrement plus dansante que l'original.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Christophe était si curieux et à l'affût des nouveautés musicales qu'il y a encore 2 ans, il invitait les nouveaux artistes à succès dans un album de duo, comme Jeanne Hadid ou Juliette Armanet.
Et je suis comme une boule de flipper.
Et voilà ce journal qui s'achève sur le son de Christophe. C'était le journal de Sophie Echani. Il est 6h10. Lénaïque Monnier, le journal des sports avec à la une Lille qui donne le coup d'envoi de la 33e journée de Ligue 1 de football.
Et oui, le LOSC leader accueille ce soir Montpellier. À 6 journées de la fin, Lille pourrait bien être le prochain champion de France. Sauf que ce n'est pas du goût de certains qui trouvent le jeu lillois trop défensif, pas assez animé. Ce qui a, vous allez l'entendre, agacé l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier.
Évidemment, j'ai écouté les commentaires des uns et des autres que si jamais on avait le bonheur d'être champion, on le devrait qu'à notre gardien qui regarde leur équipe jouer. Qui se concentrent sur leur équipe. Je fais rarement de commentaires sur les adversaires. Mais heureusement qu'on a un gardien qui est là pour faire des arrêts. Vous croyez que les équipes qui jouent du tableau, qui se battent pour la Champions League, n'ont pas un bon gardien? Mais on ne peut pas résumer la saison sur l'individualité, la performance du gardien, de Mike, et que notre jeu ne reste basé que sur ça. On ne peut pas réduire la performance du LOSC que sur cela, quoi.
Christophe Galtier, fâché au micro de Sébastien Bouelli, qui, on rappelle, un petit matelas d'avance. Hein, 3 points sur le Paris Saint-Germain qui ne jouera que dimanche contre Saint-Etienne.
L'Euro avant les Jeux, c'est ce qui attend l'équipe de France féminine de basket.
Oui, 14 joueuses appelées hier pour préparer l'Euro qui arrive effectivement dans 2 mois avec une surprise. L'ailière franco-américaine Gabby Williams qui joue en Hongrie et qui est appelée pour la première fois. Elle n'a que 24 ans. Écoutez, Jacques Commer, c'est le directeur des équipes de France et il nous explique ce choix inattendu qu'il faut justifier auprès de la Fédération internationale.
Bon, Gabby Williams a un passeport français, une carte d'identité française, elle a une origine franco-américaine, elle est sélectionnable en équipe nationale. On attend une réponse de la FIBA sur la possibilité que Gabby Williams est un statut de française, reconnue française à la naissance.
Jacques Commer, interrogé par Axel May.
Le cyclisme et la saison démarre bien pour Arnaud Démare.
Deuxième victoire de la saison pour le champion de France qui a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de la Communauté de Valence. Étape, vous allez l'entendre, particulièrement difficile au vu des conditions météo.
C'était une journée où on a pris beaucoup la flotte et il fait pas chaud. 6 degrés tout mouillé, donc... On sprint avec les vestes et les gants néoprènes, c'est pour dire qu'il faisait vraiment pas chaud. Ça se termine bien pour nous. Maïs qui gagne hier, on gagne aujourd'hui. Il conserve le maillot jaune. Non, c'est top.
Victoire d'étape donc pour le Français alors que son coéquipier, l'Australien Mike Scottson, vainqueur en solitaire la veille, reste lui leader de la course espagnole. D'un mot, le tennis pour terminer avec ce petit séisme sur le rocher. Novak Djokovic a perdu en 8e de finale à Monte Carlo, 6-4, 7-5 contre Daniel Evans, 33e joueur mondial. Rafael Nadal lui a balayé Grégor Dimitrov, l'Espagnol se rapproche d'un 12e titre à Monte Carlo.
Ça y est, la voie est libre.
Ah bah là c'est très ouvert.
Lénaïque Monnier, merci beaucoup. Europe 1. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une sorte de Madeleine de Proust, un souvenir d'enfance. La vache qui rit a un siècle déjà, et elle est presque indémodable, cette vache qui rit, vendue dans 136 pays sur 5 continents. Et nous sommes ce matin avec mon invité inattendu, là où ce fromage est né, dans le Jura. Bonjour.
Bonjour, je suis Romuald Fassenet, le chef étoilé du Château du Mont-Joli à Sampan, à quelques pas de Dole.
Bonjour Romuald Fassenet, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Voilà qui est inattendu pour parler de ce fromage qui est quand même bien industriel, la vache qui rit. Tiens, je suis curieux de savoir ce que vous pourriez en faire, vous, le chef gastronomique. Vous allez nous dire ça, à tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le chef étoilé, meilleur ouvrier de France, Romuald Fassenet, est mon invité inattendu ce matin pour marquer les 100 ans. Les 100 ans de la vache qui rit. Romuald Fassenet, vous dirigez les cuisines du château du Mont-Joli, c'est à Sampan dans le Jura. Le Jura, berceau donc de cette vache qui rit. Pour vous aussi, elle a bercé votre enfance?
Oui, tout à fait. Et puis, comme j'aime le dire, est-ce que vous avez déjà refusé quelque chose à la vache qui rit? Moi, j'ai pas pu.
Elle est indémodable à 100 ans, un siècle d'histoire autour de ce fromage. Alors bon, on va pas se mentir, vous êtes un chef de la cuisine, bien sûr, gastronomique. On est au pays du fromage, y compris dans le Jura. J'imagine que vous préférez les fromages fermiers d'habitude aux produits industriels.
Oui, alors le but, il était vraiment pas de chercher à faire de la gastronomie. On va dire que je cherchais de la générosité et une cuisine ludique, de partager tout ça en famille, comme le veut ce fromage à pâte à tartiner, la vache qui rit, qui est un fromage pour moi de partage et d'enfance, quoi.
Oui, parce que vous avez été choisi par la marque, parce que justement vous êtes installé dans le Jura, pour à l'occasion de cet anniversaire, préparer des recettes, imaginer des recettes autour de la vache qui rit. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, le chef gastronomique, avec une vache qui rit?
Alors, c'était en même temps dans une période, on va dire, où on est fermé. Alors, effectivement, quand Laurent Bourdereau, le directeur du musée de la maison de la vache qui rit, m'a proposé, j'étais déjà honoré parce que me mettre à l'honneur dans le musée pour les 100 ans de la maison de la vache qui rit, j'ai commencé à colorier, à dessiner, à gribouiller des recettes avec la vache qui rit. Et je lui ai envoyé les croquis et il m'a dit « fais-moi-en 13 ». J'en ai fait 18. Il m'a dit « je les veux toutes ». Je les veux toutes.
18 recettes. Alors, vous êtes amusé, hein, dans la liste, il y a du bœuf bourguignon, il y a du chili con vache qui rit. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est.
Ah bah là, c'est le coup de cœur, le chili con vache qui rit. Alors, ce qui était marrant dans ces recherches, finalement, dans ce voyage, parce que finalement, ça va découler sur un voyage, c'est que j'ai voulu associer un petit peu les saveurs de la vache qui rit qui existent dans le monde entier, qu'on ne connaît pas, nous, en France, puisque nous, on connaît que le basique de la vache qui rit, c'est-à-dire ce triangle, cette forme triangulaire, mais de pâte à tartiner nature, on va dire. Et il existe beaucoup plus de saveurs dans le monde entier. Ah et oui. C'est ça qui m'a donné idée dans ces recettes. Et donc, je me suis amusé à les associer avec des qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire les légumineuses, le végétal, le bio. Et puis, j'ai aussi associé tout ça avec mes voyages. Voilà, toute mon expérience dans le monde entier. Et du coup, il y en est sorti 18 recettes.
Et alors, du coup, par exemple, sur le chili con vache qui rit, elle est où la vache qui rit?
Ben, il existe une vache qui rit, haricot rouge, paprika. Donc, il existe une vache qui rit, pimentos. Il existe une vache qui rit, olive noire. Donc logiquement pour moi, chili con vache qui rit, j'ai dit je vais faire un chili con carne avec au lieu de mettre la quenelle de crème fraîche à la fin, on va mettre un triangle de vache qui rit sur la préparation, qui reste une recette très facile, très abordable, très ludique, très encore une fois accessible. Et du coup, au lieu de lier à la crème, on va mettre de cette vache qui rit pour prendre l'idée de cette vache qui rit au paprika et au haricot rouge, quoi.
Et vous avez même imaginé des desserts. Alors, il y a des macarons, du riz au lait, même du tiramisu. Ça reste l'enfance, la vache qui rit, c'est la nostalgie.
Ah ben, vous l'avez dit tout à l'heure, la Madeleine de Proust, moi, c'est mon rappel d'enfance avec ma maman qui nous faisait un riz au lait au caramel qu'on mangeait encore tiède quand on rentrait de l'école. Et pour moi, il était presque logique de faire un riz au lait crémeux qu'on finit avec de la vache qui rit et puis associé avec une compotée d'abricots avec un petit peu d'amande pour terminer. Et voilà, c'est ça un petit peu la générosité des plats. Aujourd'hui, chercher les parfums, les aromatiques, c'était pas forcément le but. Mais en même temps, on a une fraîcheur avec la vache qui rit. On a une petite acidité qui vient amener de la légèreté dans un plat.
Bon, ben voilà, un chef étoilé, meilleur ouvrier de France qui cuisine de la vache qui rit ce matin. C'est complètement inattendu. Merci à vous de nous avoir raconté ces quelques recettes géniales.
Alors, je voulais juste finir. Oui. Je dis toujours qu'on a été en enfance, tout le monde connaît la soupe de courgettes à la vache qui rit. J'espère que demain, tout le monde fera le houmous vache qui rit pois chiche bio parce que c'est délicieux.
Et on retrouvera vos recettes, notamment donc dans ce musée, la maison de la vache qui rit, qui est à Lons-le-Saunier, et où une exposition ouvrira le jour où ce sera possible, autour de ces 100 ans de ce fromage. Merci à vous, Romuald Fasnet, chef du château du Mont-Joli, dans le Jura. Merci à vous, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h21, trois hommes soupçonnés d'avoir enlevé la petite Mia en début de semaine dans les Vosges ont été interpellés. Ils sont connus des renseignements. La mère et sa fille de 8 ans sont toujours activement recherchés. Le cap de la mi-mai maintenu par Emmanuel Macron, le chef de l'État envisage toujours une réouverture des terrasses ainsi que des musées à cette date. Et puis à partir de demain, des créneaux de vaccination seront dédiés aux enseignants, professionnels de la petite enfance, aux policiers et aux gendarmes de plus de 55 ans.
Europe 1.
À suivre sur Europe 1, la partition avec Ombline Roche. À tout de suite.
Europe 1.
6h23 sur Europe 1, la partition avec Ombline Roche et direction les années 90. On est en 1994 et nous assistons à la résurgence de la musique punk rock. Cependant, on est loin des messages politiques adressés à la jeunesse désœuvrée comme, par des groupes comme les Clash ou les Sex Pistols 20 ans plus tôt. Ombline, nous sommes sous le soleil de Californie avec The Offspring et l'heure est à la franche rigolade.
Le fun comme unique revendication, Sébastien, il faut rappeler qu'en 1994, le rock est en deuil, la jeunesse en mal de guitare saturée pleure. Kurt Cobain qui vient de se suicider, Nirvana a montré la voie. Mais voilà, le grunge héritier du punk est mort avec son créateur. Après les larmes, la musique providentielle de The Offspring promet des lendemains de fête.
Lorsque The Offspring devient le nouveau phénomène rock, les premiers surpris sont les quatre membres de The Offspring.
Effectivement, ils étaient à milieu d'imaginer un tel engouement. Ils étaient surtout incapables de croire qu'ils pouvaient incarner des sortes de guides fournisseurs officiels d'espoir pour leurs fans. Ils attendent des solutions, explique le guitariste Noodles dans le magazine Les Inrock. Ils attendent des directions, alors que nous sommes juste quatre copains qui, il y a 10 ans, ont décidé de tuer l'ennui de leur banlieue en faisant du bruit.
Voilà donc quatre copains de lycée dans le comté d'Orange en 1984 qui se mettent à jouer du punk parce que, disent-ils, on n'avait pas besoin d'être des flèches technologiques pour ça.
Oui, il faut juste savoir brancher une guitare, une basse, une batterie. The Offspring ouvre les vannes et déverse une musique électrique bruyante, joviale. Après avoir sorti 2 albums confidentiels, il retourne en studio prêt à enregistrer à nouveau un album pas cher, vite fait, bien fait.
Cette fois, le disque Smash se vend par milliers, puis par millions aux États-Unis et ailleurs.
Les Offspring amènent le punk californien à des niveaux inédits d'audience internationale. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Au même moment, Green Day est l'autre sensation de ce revival punk mélodique et joyeux. Les deux groupes vont profiter d'une exposition inattendue en servant de musique de fond à des vidéos de sport de glisse, le surf, le skate, le snowboard. Les Offspring explosent et le chanteur du groupe Dexter Holland se retrouve dans l'obligation de mettre ses études entre parenthèses. Il va attendre un moment avant de soutenir sa thèse de doctorat en microbiologie. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated.
separated. Hey, now you're talking back to me. Take a look. You gotta keep them separated. Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep him separated.
Come Out and Play, extrait de l'album Smash de The Offspring, en étant 1994.
Oui, cet album
ça me rappelle mes années de collège.
Incroyable, hein, on remonte le temps.
Ça et alors pour la petite histoire, vous disiez qu'il avait interrompu ses études, mais il a reprise, le chanteur.
Eh oui, le chanteur Dexter Holland, on va l'appeler Dr Holland, il a bel et bien décroché il y a 4 ans son doctorat en biologie moléculaire, après la publication d'une thèse de 174 pages sur la dynamique moléculaire du VIH et les interactions entre virus et hôtes.
La fin de l'histoire, il est devenu docteur en microbiologie, étude qu'il avait donc interrompue dans les années 90, voilà, 25 ans après. Il a fini son doctorat. Omblin Roche, merci à vous.
Dire que l'album de The Offspring, le 10e, sort aujourd'hui, hein, qui s'appelle Let the Bad Times Roll.
La partition. Omblin Roche, merci. 6h29. Laurent Cabrol, c'est à vous.
Eh bien, c'est un petit peu le même schéma qu'hier, figurez-vous, puisque nous avons un temps souvent dégagé, alors nous parlons, ce ciel, même si vous voyez assez peu, est dégagé sur la plupart des régions de France. Mais dans le courant de la journée, d'abord, vous verrez arriver des nuages sur la Lorraine, l'Alsace, qui sont des nuages de basse altitude et qui ne sont pas très agréables. Et puis, vous allez voir dans l'après-midi, la France s'ennuager gentiment, en donnant très peu de pluie. Si, les pluies apparaîtront sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, ainsi que la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, on s'arrête là. Languedoc-Roussillon sera dégagé. Et puis des températures ce matin qui sont encore bien froides. Moins 5 à Saint-Etienne, moins 4 à Vichy, moins 3 à Grenoble, moins 2, 3, moins 1 à Mulhouse, 0 à Besançon, 2 à Rennes et en banlieue parisienne, 3 à Lille, à Toulouse et Lyon, 4 à Paris, 5 à Marseille. Les températures maximales seront identiques à celles d'hier. Elles iront de 9 à 16 degrés.
Merci à vous Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h30.
Il faut avancer progressivement. Rien ne serait pire que de dire à la mi-mai, on commence à tout rouvrir. Et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard, parce que le virus revient, on sera obligé de tout refermer.
Bruno Le Maire assume la prudence du calendrier de déconfinement encore peu précis au moment où le formidable redémarrage économique des États-Unis commence à tirer certaines entreprises françaises dans son sillage. Dossier d'Europe 1 dans un instant. Les raisons d'y croire ce matin, c'est aussi la vaccination dont le rythme est de plus en plus soutenu en France. Il faut dire que les soignants retraités viennent prêter main forte. Et puis nous verrons qu'il ne fait pas bon être français au Pakistan où de grandes manifestations visent directement le consulat à Karachi.
Après le journal, c'est un mouvement de fond qui se confirme mois après mois. La parole se libère et nous vous le disions dès 6h ce matin, les signalements pour faits d'inceste n'ont jamais été aussi nombreux. Mon invité ce matin est Édouard Durand. Il co-préside la commission lancée le mois dernier sur ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Il est avec nous dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un chiffre jamais vu depuis 30 ans que la Chine publie son taux de croissance tous les trimestres. 18% de hausse de son PIB sur ce début d'année 2021 par rapport à l'année passée. La reprise qui est en route aussi aux États-Unis. Grâce à une vaccination de masse très rapide, le pays commence à voir le bout du tunnel. Et la bonne nouvelle, c'est que la France en profite.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour, bonjour à tous.
Les États-Unis sont l'un des principaux marchés d'exportation de nos entreprises. Et le redémarrage américain profite à tous les secteurs.
Tous. C'est vraiment un état d'esprit qui est là. Mathieu Beuchet le sent depuis plusieurs semaines déjà. Il dirige Klaxoon, une entreprise qui propose des applications pour dynamiser les réunions en présentiel.
On sent effectivement une reprise sur le territoire américain avec depuis quelques semaines 3 fois plus de demandes d'équipement sur des usages spécifiques qui sont ceux du lancement produit ou de tout ce qui va être de lancement de nouvelles offres. Ils sont dans un mode on y va, il faut investir, c'est reparti, on y croit.
Pareil pour Louis de Rangère, lui fournit des machines à l'industrie américaine et il ne s'attendait pas du tout à recevoir autant de commandes.
Nos interlocuteurs sont persuadés qu'il y a une reprise locale, mais il y a une reprise de l'économie au niveau mondial qui est en train de se profiler. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est être prêts à pouvoir fournir au niveau mondial et ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements. Donc, ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Donc, Carole Ferry, on peut dire que le train de la relance est vraiment en marche.
Complètement. Et il va même encore s'accélérer. Il y a un point notamment à scruter, c'est le plan de 2000 milliards de dollars pour rénover toutes les infrastructures du pays. Là aussi, nos entreprises françaises pourraient en profiter, selon Arnaud Leretour. Il est responsable de Business France aux États-Unis.
Évidemment, dans le domaine, par exemple, de la Smart City, de la mobilité, dans le domaine des bus électriques, de l'automobile électrique, je pense qu'en effet, les entreprises françaises pourront bénéficier clairement, oui.
Mais encore faut-il que ce plan extrêmement ambitieux soit voté. Il promet des débats houleux, en tout cas, dans les mois qui viennent.
Le dossier de la rédaction signé Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
On l'a dit, la vaccination est clé pour la reprise. Elle monte aussi en puissance en France. 410 000 doses injectées, par exemple, en un seul jour, mercredi. Il faut dire qu'à l'appel des autorités, les retraités, les soignants retraités s'impliquent. C'est le cas au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Reportage de Stéphane Place pour Europe 1.
Comme antécédent allergique, qu'est-ce que vous avez ?
Aucun.
Okay. Bon, mais vous êtes bien éligible.
À la retraite depuis 3 ans, Gilles Faber reprend du service au centre de vaccination du CHU de Bordeaux. Ce médecin généraliste y assure des consultations qui précèdent l'injection.
Là, quand j'ai vu qu'il fallait des bras, je me suis réinscrit directement au service des ressources humaines au CHU. Je participe à la vaccination. C'est un peu de solidarité et ça ne me dérange pas de ne pas être rémunéré.
Voir ces retraités sur le pont, c'est rassurant, disent ces soignants, qui viennent justement d'être vaccinés.
Ça crée un climat de confiance, le fait de voir des plus anciens qui chapeautent un petit peu tout ça. Et même s'il est retraité, il n'en reste pas moins médecin.
On manque de personnel, on a vraiment besoin.
Ici, pour vacciner 400 à 500 personnes par jour, il faut une quinzaine de professionnels. Alors oui, le renfort des retraités est précieux, reconnaît le docteur Nguyen, infectiologue.
On a le plaisir d'accueillir des confrères retraités, 1 à 2 par jour. C'est très appréciable et sympathique.
Des infirmiers et infirmières à la retraite viennent également donner un coup de main.
Voilà, c'est terminé.
Merci bien.
Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
À partir d'aujourd'hui, les plus de 60 ans sans comorbidité peuvent se faire vacciner aussi avec les vaccins Pfizer et Moderna. Et notez qu'à 8h15, l'invité politique de Sonia Mabrouk est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui est en pointe sur ce dossier de la vaccination.
Il est 6h35. Après des semaines de débats, de contestations et même plusieurs manifestations ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans la rue, la proposition de loi sur la sécurité globale a définitivement été adoptée hier par les députés.
Oui, même si ce texte a été en partie remanié, y compris le fameux article 24 qui a tant fait parler, Guillaume Biais.
Oui, article qui a été complètement réécrit. Au final, il ne sanctionne plus le fait de diffuser des images de gendarmes ou de policiers à des fins malveillantes, mais uniquement la provocation à l'identification dans le but de porter atteinte aux forces de l'ordre ou à leur famille. Délit qui sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Autre changement par rapport à la version initiale, les images des caméras piétons, elles, ne pourront finalement pas être diffusées dans les médias. C'était pour contrer les vidéos des réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas alimenter une guerre des images. Pour les drones, pas de reconnaissance faciale autorisée et l'utilisation de ces drones est limitée à certaines situations. L'essentiel du texte porte sur les polices municipales. Leurs missions sont renforcées, squat de hall d'immeubles, conduite sans permis. Les agents municipaux vont élargir leur champ de compétences, plus création d'une police municipale à Paris. Quant aux vigiles, les 170 000 agents de sécurité privée, eh bien, ils seront plus étroitement contrôlés et sanctionnés en cas de dérapage.
Merci Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. La politique avec l'homme qui va tenter l'impossible ce week-end, Yannick Jadot. Il était l'invité hier soir de l'émission Vous avez la parole sur France 2, rendez-vous médiatique à l'avant-veille de la réunion des dirigeants de la gauche en vue de 2022 qui se tiendra demain matin dans un hôtel du nord-est de Paris et dont il est l'initiateur.
L'occasion de répéter sa volonté d'union, Claudia Bertram, quitte à bousculer sa propre famille politique.
Oui, Yannick Jadot veut rassembler la gauche et il le martèle sur France 2.
Si nous voulons gagner,
il faut une candidature commune.
Il en sera question demain avec les autres forces de gauche. Des discussions qui s'annoncent laborieuses car chacun vient autour de la table avec ses propres intérêts. Mais c'est surtout dans son propre parti que ça coince. Son initiative en a agacé plus d'un car Yannick Jadot impose le rythme à son camp. Et beaucoup le soupçonnent de vouloir enjamber la primaire des écologistes prévue en septembre. L'eurodéputé pourtant l'assure.
J'ai toujours été fidèle et loyal à ma famille politique.
Mais une fois de plus, il ne cache pas ses réticences.
Si la primaire de l'écologie sert cet objectif, évidemment j'y participerai. Si à un moment donné, collectivement, nous pensons que la primaire de l'écologie ne sert plus cet objectif, eh bien nous serons intelligents collectivement.
Problème, pas question pour le patron des Verts, Julien Bayou, d'en démordre sur le calendrier. Et la méthode choisie, si l'initiative de Yannick Jadot permet d'ouvrir le dialogue à gauche, l'union est loin d'être acquise. Et ça peut être à double tranchant pour l'eurodéputé. Un écologiste prévient, si ça ne marche pas, ce sera la démonstration qu'il n'est pas apte à rassembler.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
La nouvelle a surpris hier en fin de matinée. La France demande à ses ressortissants et à ses entreprises installées au Pakistan de quitter le pays.
Oui, l'ambassade fait état de menaces sérieuses sur les intérêts français. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est une rancœur ravivée qui inquiète. Pour comprendre, il faut remonter au mois d'octobre dernier, l'assassinat de Samuel Paty. Emmanuel Macron défend alors le droit à la caricature et donc les dessins de Mahomet, tollés dans le monde musulman, notamment au Pakistan, où pour calmer les esprits, le gouvernement propose d'expulser l'ambassadeur de France avant le mois d'avril. Nous y voilà, le représentant français est toujours là et le principal parti islamiste radical multiplie les manifestations anti-françaises pour réclamer son départ. Moins d'un millier de nos compatriotes vivent là-bas. La grande majorité a la double nationalité, ce qui rassure Hussein, un franco-pakistanais de Karachi.
Les binationaux, ils ne sont pas identifiés comme des ressortissants français par le public. Hein. Certaines marques françaises peuvent être affectées.
Sanofi, Carrefour ou encore Schneider Electric sont très implantés là-bas. L'Oréal a déjà fait l'objet d'un boycott, mais ce qui semble le plus menacé, ce sont les représentations diplomatiques françaises. Des conteneurs maritimes ont été ajoutés le long du mur d'enceinte de l'ambassade et des Rangers, une force paramilitaire pakistanaise, sont déployés à proximité.
Allez, on termine ce journal avec le football et le début ce soir de la 33e journée de Ligue 1.
Avec le leader Lille qui reçoit Montpellier. Lille, le LOSC qui réalise une saison incroyable. Les Lillois sont devant le PSG à 6 journées de la fin. Tout reste donc possible. Et pourtant, cette équipe qui brille sur le terrain accumule les déboires en dehors. Les finances du club notamment sont dans le rouge. Marguerite Lefebvre.
Sur le terrain, ils sont impressionnants de régularité. Les joueurs de Lille ont disputé 32 matchs, n'en ont perdu que 3, et ils ont passé près de la moitié de l'année en tête du championnat. Mais au-delà de ces statistiques flatteuses, le LOSC, c'est aussi ce leader au pied d'argile. Au bord de la faillite, il y a 4 mois, le club a dû être racheté in extremis à Noël. Le Covid et Mediapro n'expliquent pas tout. Mickaël Terrien est économiste du sport à l'université de Lille.
On est face, dans le cas du LOSC, à soit de l'incompétence managériale crasse, soit une pratique à la frontière de la légalité ou de la moralité. C'est quelqu'un qui a acheté le club avec l'argent de quelqu'un d'autre et qui l'a certainement utilisé pour s'enrichir lui-même.
Résultat, en milieu de saison, le président a changé, l'actionnaire également, mais la dette, elle, est toujours abyssale. Il va sans doute falloir vendre des joueurs avant l'été. Et comme si cela ne suffisait pas, on annonce aussi le départ de l'entraîneur Christophe Galtier pour Lyon la saison prochaine. Autant d'éléments perturbateurs dont les joueurs vont devoir faire abstraction à 6 journées de la fin du championnat et alors que le titre leur tend plus que jamais les bras.
Marguerite Lefebvre sur Europe 1, Europe Soir évidemment, 20h ce soir, vendredi.
C'était le journal de France à Geffrier, 7h20.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille l'invité de ce 5-7. Bonjour Édouard Durand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes juge des enfants au tribunal de Bobigny et vous co-présidez la commission indépendante qui a été lancée au mois de mars sur la question de l'inceste et des violences faites aux enfants. On va parler de votre travail dans un instant. D'abord, ce chiffre qu'Europe 1 révèle ce matin, le nombre de signalements d'actes d'inceste a bondi de 45% au premier trimestre de cette année. C'est une preuve supplémentaire que la parole se libère sur ces questions ?
Oui, c'est un signal très fort. Ce chiffre, cette augmentation très importante montre que la parole se libère et que si la parole se libère, c'est que les victimes de violences sexuelles et les enfants victimes de violences sexuelles perçoivent qu'ils vont être entendus par la société.
Il y a eu cet hiver la très forte médiatisation de l'affaire Olivier Duhamel. Vous pensez que ça aide en quelque sorte, vous pensez que ça accélère les choses, qu'on en parle dans les médias ?
Oui, la parution du livre de Camille Kouchner est à l'évidence un événement très important dans la contribution à la protection des enfants. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, des livres, des affaires judiciaires qui ont heurté l'opinion publique ont généré une prise de conscience collective. Ce qui se passe de vraiment nouveau dans la période que nous vivons actuellement, c'est non seulement que les victimes de violences sexuelles parlent, mais elles l'ont toujours fait. Ce qui est nouveau, c'est que la société les écoute, prend leurs paroles en considération et se sent responsable de la protection que nous devons garantir à nos enfants.
Et la société les écoute, et par de nouveaux moyens aussi, puisque ces signalements ont été faits sur une plateforme numérique qui a été créée pour recueillir justement tous les témoignages de violences sexuelles au sens large. Plateforme qui a vu le nombre de signalements doubler cette année. Cet outil numérique qui permet aussi de faciliter cette prise de parole.
Oui, bien sûr. Il est important que les nouvelles technologies soient des médias et des espaces de protection. Au bout du compte, ce qui compte toujours, c'est que un enfant victime de violences sexuelles, un enfant victime d'inceste, ou toute personne victime de violences, puisse se trouver en présence d'un professionnel formé en capacité de mettre en œuvre des stratégies de protection.
Que deviennent ces signalements, justement ?
Eh bien, ensuite, il faut qu'il soit, s'agissant d'enfants, signalement d'enfants victimes de violences, il faut que ce signalement soit traité par les autorités compétentes et finalement par l'autorité judiciaire, que le cas échéant, ça déclenche une enquête et que soit mis en œuvre, parfois en urgence ou en extrême urgence, des mesures de protection pour que l'enfant ne soit plus en danger, mais protégé.
Je le disais, vous co-présidez une commission qui a été mise en place sur la question des violences faites aux enfants. Est-ce que vous allez travailler sur la base de ces signalements ?
Oui, vous savez, le 23 janvier dernier, lorsque le président de la République a désigné Nathalie Mathieu et moi-même pour assurer la présidence de la commission, il a dit aux victimes, vous n'êtes plus seul, on vous croit. Ce qui est un signal très important. Et la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est une réponse à cette parole présidentielle et à l'attente sociale très forte. Signifier que cette parole est entendue, qu'elle est prise en compte et qu'elle va générer une culture de la protection et dans les politiques publiques des dispositifs qui vont prévenir les violences sexuelles et lorsqu'il y a des violences sexuelles, protéger les enfants et leur donner des soins adaptés pour qu'ils puissent reprendre normalement leur développement.
Quel est l'objectif que vous vous fixez au sein de cette commission ? Quel va être votre travail ? Vous allez tenter de faire un état des lieux, de recenser le nombre de cas ?
Tout d'abord, le premier objectif explicite qui est fixé à la commission est d'organiser le recueil de la parole des victimes. Nous pensons que si des personnes adultes éprouvent le besoin de dire les violences qu'elles ont subies dans leur enfance, c'est aussi pour que les enfants d'aujourd'hui et de demain soient mieux protégés. Et donc, nous devons organiser ce recueil de la parole et à partir de tout ce qui sera dit, élaborer des préconisations de politique publique. Ça, c'est un premier axe qui est extrêmement fort. Mmh. Ensuite, nous avons réuni un groupe d'experts, des médecins, des psychologues, des magistrats, des responsables associatifs, donc des grandes diversités d'experts qui ont une compétence sur la protection des enfants victimes de violences sexuelles pour faire plusieurs choses. La première, c'est nous appuyer sur les connaissances qui existent déjà et surtout sur les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre sur certaines parties du territoire national. Vous savez que il y a des formations pour les policiers, les gendarmes, qu'il y a des unités d'audition spécialisées pour les enfants victimes. Et donc, il faut s'appuyer sur les bonnes pratiques pour renforcer nos compétences. Et à partir de ce constat qui sera fait, nous devrons procéder à des recommandations pour renforcer notre culture de la protection.
Et dans le même temps, la proposition de loi destinée à protéger les mineurs des violences sexuelles était discutée à l'Assemblée. Elle fixe le seuil de consentement à 15 ans, à 18 ans pour les cas d'inceste. Ça veut dire que, clairement, un mineur n'aura plus à prouver de quelque manière que ce soit son non-consentement, ce sera considéré, quoi qu'il arrive, comme de l'inceste. C'est une avancée pour vous, vous qui êtes juge des enfants, qui avez été confronté à ce genre de situation, c'est un arsenal supplémentaire qui est très important.
Cette loi constitue une avancée majeure, très importante, et je m'en réjouis beaucoup. Elle répond à une attente très forte des associations et des institutions. Ce qu'il faut voir, c'est l'asymétrie entre l'adulte et l'enfant. Ce qu'il faut voir, c'est que l'acte sexuel ne peut avoir lieu que parce que l'adulte y contraint l'enfant. Et ça, c'est très important. Cette loi permet que dans les enquêtes pénales, dans les procès, on ne soit pas obligé par la loi de poser des mauvaises questions. Est-ce que l'enfant a dit oui? Est-ce que l'enfant a dit non? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il n'a pas crié? Et pourquoi? Mais que l'on puisse voir l'asymétrie entre l'adulte et l'enfant pour deux raisons très importantes. La première, c'est que le passage à l'acte sexuel de l'adulte est une perversion du besoin affectif de l'enfant. La seconde, c'est que le droit ou le procès pénal ne peuvent pas être un terrain vague où tous les coups sont permis. Et il fallait que ce soit la loi qui le dise. Donc c'est donc un progrès très important.
Merci à vous. Merci Édouard Durand d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous co-présidez la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences faites aux enfants. Merci à vous. Très bonne journée.
Merci.
Europe 1.
6h49, l'innovation du jour à suivre avec Anis et Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h10, retour en classe des élèves le 26 avril en primaire et le 3 mai au collège et au lycée. Ces dates sont gravées dans le marbre. Voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron à des maires réunis en visioconférence hier. Faudra-t-il une troisième injection pour le vaccin Pfizer et un rappel annuel par la suite? Le patron du laboratoire ne l'exclut pas. Il reconnaît de nombreuses incertitudes liées à l'existence des variants. Et puis la générosité des Français ne se dément pas. Résultat exceptionnel dans ce contexte de crise et la satisfaction des organisateurs du Téléthon qui récolte cette année plus de 77 millions d'euros. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour ce matin, c'est une nouvelle génération de vélos d'appartement, des vélos qui vont nous inciter à faire de l'exercice avec des jeux vidéo et des séries télé.
Oui, ce sont des vélos avec un grand écran sur lesquels on peut avoir des cours en vidéo, hein, classique, mais aussi des jeux et sa plateforme de séries préférées. Donc pour se motiver, on se dit par exemple, tiens, une heure d'exercice égale une heure de Netflix. On s'installe et si on ne pédale pas assez vite, toc, la série se met en pause et l'écran s'éteint. Même chose pour les jeux vidéo, on sera obligé de se bouger parce qu'il y a des petites manettes à chaque extrémité du guidon et des jeux qui tiennent compte du mouvement des pédales. Donc pour se déplacer plus vite, il faudra pédaler plus fort. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, on a tendance à passer son temps devant les écrans, à avachi sur le canapé. Et bien là, on pourra continuer à le faire, mais en faisant de l'exercice.
Mais on pourrait très bien pédaler vraiment devant la télé, enfin dans le salon. Il n'y a pas forcément besoin d'un vélo spécial.
Bah apparemment si, parce que vous savez que le sport, c'est avant tout une question de motivation et c'est compliqué tout seul chez soi de se motiver. En plus, c'est un peu barbant de pédaler dans le vide. D'où cette idée d'utiliser les techniques du jeu vidéo pour casser l'ennui et se stimuler. Le jeu vidéo qui est passé maître dans l'art de donner cette petite dose de dopamine au moindre progrès, ce qui est rarement le cas quand on fait de l'exercice. Et c'est pour ça qu'on commence à tester ces techniques sur les vélos d'appartement, à voir maintenant si ça marche.
Alors, s'il y a un écran, s'il y a des manettes en plus, c'est forcément un vélo qui va coûter plus cher.
Bah oui, malheureusement, on est dans le haut de gamme. Hein, on est autour des 2000 euros chez des fabricants comme Peloton ou Play Pulse. Mais certains comme Virzoom commencent à proposer des capteurs à installer sur les vélos existants. Et là, on descend sous les 400 euros. Ça évitera peut-être à son vélo très très cher de finir dans un placard.
Voilà pour l'innovation du jour, signé Anissé Mbida. Et à 6h53, nous débutons cette revue de presse internationale en Angleterre. Avec vous Anaïs Cordoba, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à Londres ?
Eh bien, à la une de la presse britannique ce matin, les funérailles du prince Philippe qui auront lieu demain. Et de nombreux titres sont dédiés à William et Harry qui ne marcheront pas côte à côte dans le cortège funéraire. Des frères désunis en une du Daily Mail. Le Sun nous apprend que les deux princes seront séparés de 3 mètres exactement dans la procession. Entre eux, leur cousin plus âgé, Peter Phillips. Le palais a refusé de commenter cette décision, mais pour le Télégraphe, c'est le signe que la brouille entre les deux frères perdure. La presse rapporte également que, contrairement à la tradition, les membres de la famille royale qui ont servi dans l'armée ne porteront pas de tenue militaire. Et ce, pour éviter la polémique, le Guardian explique. Harry, qui a été déchu de ses titres militaires pour avoir quitté la famille royale, aurait été le seul homme de la famille à ne pas porter d'uniforme alors qu'il a servi en Afghanistan.
Les obsèques du prince Philippe demain après-midi à Windsor. Merci à vous Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Direction l'Inde à présent avec vous Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une à New Delhi ?
Ce sont les images de la Kumbh Mela, l'un des plus grands rassemblements religieux du monde où plus de 2 millions de fidèles hindous électrisés s'entassent sur les bords du fleuve Gange pendant plusieurs semaines, comme le montre NDTV. L'Inde connaît actuellement une immense deuxième vague de Covid. Elle a dépassé le Brésil en nombre de cas lundi. The Indian Express consacre un reportage photo à ce festival religieux ultra dense où, de l'aveu des autorités, les précautions sont impossibles. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Plus de 1000 cas ont été détectés dans la ville sacrée de Haridwar où ont lieu les festivités cette année. Imaginez les gros titres si une autre religion avait organisé un tel rassemblement, interroge Scroll India. Une référence au début de l'épidémie où de nombreux musulmans avaient été arrêtés après un rassemblement beaucoup plus petit.
Com Bastin à New Delhi pour Europe 1. Nous terminons notre tour du monde aujourd'hui en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic.
Bonjour Sébastien.
Quels sont les gros titres à Pékin ?
Alors là, une de l'actualité aujourd'hui en Chine, cette nouvelle mode qui défraie la chronique ici, le binge drinking, comprenez les beuveries express en direct sur Internet. Cela consiste, nous explique The Paper à Shanghai, à boire le plus d'alcool possible en se filmant. Un spectacle qui attire des millions de spectateurs, qui payent même pour voir des hommes et aussi des femmes boire plus que de raison. Le problème, rappelle le quotidien de Pékin, c'est que cette mode est très dangereuse. Plusieurs personnes sont tombées malades et un homme est même mort en 2019 après avoir ingurgité pendant 3 mois des litres d'alcool, ce qui lui rapportait 80 euros par jour, mais aussi une maladie mortelle du foie. Le quotidien du peuple appelle aujourd'hui le gouvernement à interdire la diffusion de ce genre de spectacle sur les réseaux sociaux, comme elle l'a déjà fait pour les gros mangeurs qui se filmaient en train d'avaler d'énormes quantités de nourriture.
Sébastien Le Belzic à Pékin, merci à vous.
Europe 1.
Et c'est aux États-Unis que nous serons dès le début du journal de 7h avec cette nouvelle vidéo qui met en question les pratiques policières aux États-Unis. Nouveau cas de violence insoutenable sur ces images. La caméra piéton d'un agent qui filme les actes d'un policier qui abat un garçon de 13 ans. Nous sommes aux États-Unis dans le 7-9 de Mathieu Béliard. A tout de suite sur Europe 1. Europe 6h57 sur Europe 1, un très bon réveil, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end.
Vous l'entendez dans sa voix là, bon week-end,
ouais,
salut Sébastien,
bon
c'est
week-end,
fini.
Bon week-end, et merci pour votre fidélité au 5-7, vous êtes 500 000, plus de 500 000, un demi-million à vous lever tôt avec nous. Chaque matin, c'est un plaisir de vous accompagner, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à écouter Mathieu Béliard, le 7-9.
Attention,
bonjour Mathieu.
Ça va être redondant. Attention, parce que je vais sur le même message dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon cher Sébastien, un bon week-end à vous.
Merci.
Et à toute
merci
votre équipe. Lundi. Bonjour à Laurent Cabrol qui s'est déjà installé. Tiens, bonjour Laurent.
Merci oui. D'écouter la météo.
Mais... non mais voilà, vous le savez, les audiences radio ont été publiées hier. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. On est premier sur les 12, 40 ans avec... Bon, vous savez très bien comment ça marche. Mais vous êtes 100 000 de plus qu'à la rentrée. Voilà, je retiens un chiffre. 100 000 de plus qu'à la rentrée. J'aurais pas d'autres chiffres, mais j'ai deux mots. Bienvenue d'abord au nouveau. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez sur Europe 1, tout simplement. Venu suite à un conseil ou par hasard même, vous êtes resté, et ça c'est important pour nous, donc bienvenue au nouveau. Et puis merci aux plus fidèles, vous qui suivez Europe 1 ces dernières années, vous qui nous écrivez tous les matins, on vous lit sur le hashtag Europe 1 notamment. Eh bien on travaille tous les matins, toutes les nuits, à vous raconter ce monde qui change. Et si on dit beaucoup que la radio c'est un média d'habitude, votre fidélité finalement, c'est la plus jolie des récompenses. Voilà, c'est dit simplement pour cette fournée de sondages Médiamétrie pour Europe 1, plutôt positive évidemment, vous l'aurez compris. Très bon réveil à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Laurent Cabrol, vous l'avez entendu, il est là, c'est l'heure de la météo.
Oui.
Vous avez reçu un courrier qui m'a beaucoup fait rire, Laurent. Adressé à Laurent Cabrol, la météo de 29 et 59. Alors vous allez attendre, attention.
Attention, top 59.
C'est à vous.
Ouais, j'ai droit à une porte demi-heure. Alors,
Mais écoutez, le froid est là, hein, chers amis, vous le savez. Si vous avez déjà mis le nez dehors, moins 5 à Saint-Étienne, moins 4 à Luxeuil, moins 3 à Épinal, moins 2 du côté de Troyes, moins 1 à Mulhouse, 0 à Besançon, 2 à Bourges et en banlieue parisienne, 3 à Lille et Toulouse et Lyon, 4 à Cognac et 5 à Marseille. Des températures qui sont identiques à celles d'hier. Et finalement, quand je regardais tout ça avec attention tout à l'heure, je me suis dit, mais on a exactement le même temps qu'hier. On commence avec un ciel presque dégagé sur quasiment toute la France, excepté sur l'Alsace, la Lorraine, où nous avons quand même un peu de nuages, des nuages bas. Mais dans le courant de la journée, ce sera comme hier, ça va s'ennuager de plus en plus, quasiment partout, avec même des pluies, des averses, des orages, tiens, des orages dans le Var, des pluies d'averses sur la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la région PACA, la Corse et c'est tout. Et dans toutes ces régions, donc, nous aurons un temps souvent agité, mais partout ailleurs, ce sera sec, notamment sur Paris, mais avec des passages nuageux et puis cette impression de froid qui nous fait pas plaisir parce qu'on en a ras-le-bol. Ben, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise, moi. 9 à 15 degrés, température maximale. Tiens, comme hier. Mais mon Dieu. Les jours se suivent et se ressemblent, ma parole.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Ça se termine comme ça. Hein.
Ça se termine, mais c'est une ouverture, ça invite à réfléchir. Et ça invite à revenir à 29 pour retrouver Laurent Cabrol tout à l'heure. Très bon réveil à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1.